Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur la radio mondiale pour parler de football entre ces deux soirées un peu folles de Ligue des Champions et de match retour des quarts de finale. Citizen et Merengue ce soir, c'est donc le retour. La pelouse de Manchester sera-t-elle le cadre d'un nouveau match éblouissant où les hommes de Pep Guardiola vont-ils à nouveau humilier les Madrilènes? Le Real Madrid peut-il éliminer ce soir chez eux les étourdissants tenants du titre? Le spectacle est tellement prometteur, n'est-ce pas Bruno Constant?
Absolument Annie, bonjour. Annie, bonjour à tous.
Espérons que ce soit du niveau du match aller. Autant de suspense à Munich où le Bayern jouera sa qualification contre Arsenal. Les Bavarois ont l'occasion de sauver leur saison ratée en Bundesliga à une heure où les Gunners, eux, semblent à bout de souffle. Mais qui sait, le suspense serait-il plus épais qu'à Manchester? Une question pour vous, évidemment, David Lortolari. Bonjour, bonsoir.
Toujours les questions cruciales. Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
On aura toute l'émission pour développer, bien sûr. Et puis Paris. Paris, enfin qualifié, enfin libéré. La remontée hier soir à Barcelone a de quoi doper les espoirs des Parisiens et de leurs supporters. A-t-on assisté au match référence de cette saison avec Luis Enrique à la baguette? Et la relève est-elle là, incarnée par Barcola, Vitinha et Dembélé? Ça aussi, on aura le temps d'en parler. Bonsoir Jean-Philippe Bouchard.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Il y a de quoi dire?
Ah ben oui, pour une fois, l'équipe était en place.
Hein?
Je ne sais pas si c'est le match référence, mais ils étaient en place.
Ouais. Et un peu chacun à sa place. Nous en parlerons et nous parlerons aussi des malheurs de Naby Keïta en Bundesliga avec son club du Werder Bremen qui l'a sévèrement puni. Pierre Guérin et David Finzel m'ont aidé à préparer cette émission. Mathieu De Gueldre est à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti. La folie, on avait adoré la première manche, on réclame une seconde manche du même niveau avec but et suspense, même si l'enceinte de Santiago Bernabéu, vous l'avez entendu, avec le Real Madrid et Manchester City en sont restés au nul, à égalité pour leur confrontation. Et un doute surgit pour le match retour, car l'an passé, dans le nord de l'Angleterre, les Merengue, c'est difficile de ne pas être méchant là, mais avaient été piétinés, humiliés, pour ne pas dire ridiculisés, 4-0. Un spectacle d'impuissance terrible pour un club qui compte 14 trophées de Ligue des Champions dans son armoire. Ce soir, quel pourrait être le scénario? Est-ce que ce match allait 3-3, hein, l'année dernière on avait eu 1-1, là on a eu 3-3. Est-ce qu'il y a des indices dans ce premier round de ce que ça va être ce soir, Bruno Constant?
Ça devait être à peu près la même chose. Parce que le Real...
Mais ce soir, il faut un gagnant, par contre.
Oui, mais dans la physionomie du match, on risque de voir à peu près la même physionomie, avec une équipe du Real qui va défendre, qui va presser haut et qui va jouer en contre, et puis une équipe de City qui va s'adjuger la possession, parce que c'est leur force.
Oui, mais la semaine dernière, ils en sont restés à égalité. Mais oui. L'an dernier, il y avait eu égalité à l'aller, mais pas au retour.
Vous noterez quand même qu'il y a un détail, c'est que le match aller était à Bernabéu, à Madrid. Et que cette fois, il est à Manchester City. Donc il y aura un peu plus et forcément un avantage pour City. L'Etihad Stadium est souvent moqué, critiqué pour être un peu amorphe, silencieux en Première Ligue.
Moins les grandes soirées de Ligue des Champions.
Et notamment l'année dernière, on s'en souvient contre Madrid, l'ambiance avait été électrique.
C'est le nouveau football anglais maintenant. L'Europe compte plus que la Première Ligue.
Surtout à City, où l'hymne de Ligue des Champions est sifflé par les supporters. On peut pas nier qu'il y a forcément un avantage pour City à domicile.
Eh bien justement, les Citizens sont-ils ultra favoris dans leur stade en tant qu'hôte du match retour? On va écouter Jude Bellingham avant de vous écouter, messieurs, car pour lui, eh bien, pas forcément, dit le milieu de terrain du Real, qui est quand même, rappelons-le, un Anglais.
Tout le monde parle de Manchester City. C'est une équipe incroyable. Ils ont tout gagné la saison dernière. Mais vous savez, je ne suis pas un parieur ni un bookmaker. Je ne sais pas qui est le favori, les choses comme ça. Ce que je sais, c'est que nous sommes le Real Madrid. Nous aussi, on a une grosse équipe avec des joueurs talentueux. Le reste, c'est du bruit extérieur. En interne, on a confiance dans les forces qu'on a dans notre vestiaire.
Alors là, on en est à la méthode Coué, Jean-Philippe Bouchard. On est le Real Madrid. Est-ce qu'un mantra peut suffire à combattre l'ultra-favoritisme de l'adversaire?
De toute façon, on est à un tel niveau, de toute façon, à la fois d'individualité, d'équipe, de palmarès...
D'expérience, d'historique.
Voilà,
hein.
D'actualité, de réseaux sociaux. Enfin voilà, ça bouillonne. Qu'à un moment, il faut se raccrocher à tout ce qu'on peut. Et la méthode Coué, ça vient aussi, pourquoi pas, dans le sport, on se raccroche à tous et ça peut basculer à tellement rien, ces choses-là. Il y a des équipes qui sont très cohérentes, très équilibrées, mais un Rodri en mauvaise forme, on ne sait pas pourquoi, un De Bruyne qui est un ton en dessous, on ne sait pas pourquoi.
Un carton rouge comme hier.
Voilà. Et ça peut basculer. Faire Bellingham qui cherche de l'autre côté. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça se joue à pas grand chose. Donc, le bras de fer, si on peut donner un petit peu de méthode quoi, un peu de.
Donc, vous n'imaginez pas pour l'instant un 4-0 comme l'an dernier?
Non. Non, parce que je pense que le Real est beaucoup plus solide, paradoxalement, que l'an dernier. Que Ancelotti, finalement, on se dit toujours, il va faire la saison de trop. il est toujours là, mais son expérience et son approche des grands rendez-vous, il a une capacité à désarmer un peu toute la pression.
L'année dernière, c'était lui quand même.
Oui, bien sûr, mais il n'est pas devenu nul pour autant sur un match. Donc moi, je crois que ça, c'est en mémoire. Hein, c'est aussi des ressorts sur lesquels on joue quand on est en entraîneur. Donc, je ne pense pas que ça sera un chaos.
On peut penser que ces entraîneurs-là, que ce soit Guardiola ou Ancelotti, ils apprennent beaucoup du passé, de ce qu'ils ont vécu.
Bien sûr.
Et là, clairement, ça ne sera pas le même match. Ce ne sera pas un 4-0 pour City. J'y crois absolument pas. Mm-hmm. Et même, en tout cas, du côté de City, ils se disaient même qu'ils sont d'autant plus en danger qu'ils savent très bien que ça ne va pas être le même match et qu'ils s'attendent même à une surprise du Real dans l'approche, dans la composition, parce qu'Ancelotti, il est malin comme un singe.
David Lortolari, est-ce que vous voyez un ultra-favoritisme, vous, de Manchester City? Parce que quand on regarde, on se dit, ça a été tellement proche au match aller, mais le Real n'a pas fait la différence. Donc au match retour, est-ce que ça peut être comme un coup d'à-coup incroyable?
Est-ce que vous imaginiez, après le 1 partout du match aller l'année dernière, un 4-0 au match retour, par rapport au match qu'on a vu à l'aller? Non. Moi, je n'imaginais pas que le City allait rouler sur le Real au match retour.
Ouais, on a eu
et
la
là,
sensation
c'est difficile
qu'il y
avait de prédire ce qui va se passer.
Mais quand vous avez un match, vous avez réussi un match nul quand même, c'est assez objectif, ça c'est assez factuel. Quand vous avez réussi un match nul à l'extérieur, en marquant à l'extérieur encore 3 buts, ça vous donne quand même peut-être une capacité à vous dire que vous pouvez remarquer aussi chez vous. Alors, il y a plusieurs points clés quand même sur le terrain. Je crois que les messieurs qui m'entourent ont déjà donné les noms qui comptent. On parlait de De Bruyne, on parlait de Bellingham. Voilà des joueurs comme ça qui peuvent être des baromètres.
Rappelons-le, Kevin De Bruyne était souffrant au match aller, il n'a pas joué.
Et puis un autre
changement.
Mais il y a eu un 3-1, ils ont marqué quand même.
Ce qui est quand même un énorme changement de récupérer Kevin De Bruyne par rapport au match aller.
Oui. Alors ça, c'est à l'avantage de Manchester City, peut-être. On focalise souvent aussi sur les finisseurs, les Lewandowski, les Haaland, des joueurs comme ça. Vu d'Allemagne, parce que j'ai écouté cet après-midi aussi le son de cloche qu'on apporte d'Allemagne avec déjà un qualifié qui est Dortmund, on en dira je sais un mot, et les Allemands se disent « Ah, Rudiger, il est tellement fort en ce moment qu'il a peut-être un petit avantage, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit technique, petit avantage.
Et il n'avait pas joué le match aller l'année dernière.
Sur Haaland.
Il n'avait pas joué le match retour, pardon, le match retour l'année dernière. Le 4-0, il n'avait pas joué le match retour, on ne sait pas pourquoi.
Et lui, ouais.
Un choix d'Ancelotti.
Et on l'a vu au match aller.
Et on l'a vu au match aller.
Actif, très actif.
Je parlais des baromètres individuels, des joueurs qui ont accumulé une confiance importante. On le voit, nous, avec Leverkusen cette saison, on a l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Donc Rudiger, c'est une valeur sûre pour le Real. Quand on est en déplacement, ça peut compter beaucoup, peut-être aussi.
Et il connaît le championnat anglais.
Mais c'est là-dessus, moi, que je terminerai mon petit tour d'horizon. Mais quand vous jouez contre Manchester City, vous pouvez museler un joueur, mais il y a tellement une machine à jouer autour, avec tous les joueurs qui sont en plus sur le banc, qui peuvent vous apporter peut-être à la 65e, à la 70e, de nouvelles solutions, que la solution du Real, je ne la vois que par la vitesse des contre-attaques. Jean-Philippe parlait de la possession du ballon peut-être pour City, la vitesse des contre-attaques avec Vinicius et Rodrigo, c'est ça qui peut être le danger pour Manchester City.
Alors c'est vrai que Manchester City, on se dit, ils sont favoris, on a l'impression, quel que soit le 11 de départ,
quelle que soit la compétition, c'est
oui,
ça, c'est...
Oui, oui. Parce qu'ils ont ce côté effectivement parfois étourdissant dans un match où les autres ne peuvent pas saisir la balle, mais effectivement que ce soit Kevin De Bruyne, Phil Foden, que ce soit aussi Bernardo Silva, alors on va l'écouter Carlo Ancelotti, parce qu'il a quand même déjà dû bien les observer, même s'il parle lui aussi d'un autre joueur qui est Haaland, on dirait un peu même pas peur.
Si nous parlons de joueurs individuels, Haaland est l'un des joueurs les plus dangereux de Manchester City. Si nous ne l'avons pas beaucoup vu au match aller, c'est grâce au travail de notre défense, mais Haaland est l'un des meilleurs attaquants du monde, c'est toujours un joueur très dangereux. Nous allons nous battre avec confiance, le match a été équilibré et maintenant nous avons 90 minutes devant nous, tout peut arriver.
Alors, todo puede pasar, claro, je dirais à Mister, mais... Il semble injouable, cette équipe. Et en même temps, Bruno, je compte sur vous pour nous dire, il y a quand même, et ça, Carlo Ancelotti, il a dû le voir, il y a des failles quand même du côté de Manchester City. Quelles sont les failles que peuvent exploiter les adversaires ce soir et qui font que parfois, ce n'est pas l'équipe parfaite?
C'est les mêmes que celles au match aller. Moi, j'avais rappelé avant le match aller les buts concédés par City cette saison. C'est près de 30% sur transition rapide. Donc dès qu'ils ont 40 mètres, 50 mètres dans leur dos, ils ont beaucoup de mal à défendre, ils sont piégés quasiment à chaque fois. C'est encore arrivé ce week-end avec Luton, le seul but qui marque, c'est une transition rapide. Et on sait que la force du Real, c'est exactement ça, c'est exactement ce qui s'est passé au match aller. Donc le Real sera toujours autant dangereux de ce côté-là. La clé pour moi, c'est de savoir est-ce que le Real est capable de si bien défendre et de ne pas concéder peut-être plus d'un but. Est-ce qu'ils sont capables de réaliser ça sur 90, voire 120 minutes? Parce qu'au match aller, on les a vus à partir de l'heure de jeu, ils en avaient marre de courir après le ballon, de presser. Il avait tellement bien fait pendant une heure qu'ils se sont écroulés et que c'est à ce moment-là que City a marqué les deux buts. Donc c'est ça, est-ce qu'ils sont physiquement capables de tenir la durée sur, face à une équipe du City qui va monopoliser le ballon, qui va faire circuler le ballon avec des joueurs qui techniquement sont quand même au-dessus de la moyenne. Et puis voilà, il y a des retours importants à City. De Bruyne, on l'a dit, Ederson peut-être dans le but, qui a un jeu direct au pied qui peut convenir à Haaland. On parlait d'Haaland qui est en difficulté. Le retour de Bruyne, et on l'a vu ce week-end, quand il a le ballon, Kevin De Bruyne aussitôt, il cherche Haaland en première intention. C'est presque même de l'anti-Guardiola, puisqu'il a un jeu un peu plus direct, De Bruyne. Et puis, Kyle Walker, peut-être, qui est considéré comme le poison parfait pour Vinicius. Mmh. Est-ce qu'il sera titulaire ce soir? Ça peut changer les choses.
David Lortolari a aussi ses citizens. C'est vrai qu'ils ont des failles, mais quelles sont alors par contre les forces que peuvent déployer le Real ce soir? Est-ce que c'est autour d'un joueur? On parlait de Jude Bellingham. Il y a Rodrigo, là, l'ailier. C'est aussi une équipe. Il n'y aura pas Tchouaméni ce soir.
Oui, suspendu.
Suspendu.
C'est une grosse perte pour le coup.
Oui, mais l'autre jour, il avait eu un carton jaune. C'était un peu énervé.
Sur sa première faute, ouais, mais après, il fait un gros match quand même dans la foulée. Mais...
Oui, il a marqué au cours du week-end aussi, du côté de Cadiz. Ouais.
C'est un point important parce que Toni Kroos. Il est dans un jeu à lui, dans un rythme à lui, dans sa façon de jouer, mais il a besoin, ce serait condescendant de dire ça, mais Toni Kroos, c'est un peu comme Xhaka à Leverkusen avec Robert Andrich, le méchant qui est à côté de lui. C'est bien si Toni Kroos est un peu allégé dans les tâches défensives aussi, il ne rechigne pas à les faire, mais il n'a pas l'abnégation que pourrait avoir un milieu défensif pur, donc Kamavinga, qui devrait être auprès de lui, va avoir un rôle très important à jouer.
Kroos, il est un peu dans cette tradition allemande d'espèce de libéro devant la défense, ouais. Milieu défensif, meneur de jeu. En Allemagne, il y a beaucoup ça, c'est-à-dire des joueurs à vocation défensive qui organisent le jeu. Donc lui, ça part de derrière avec lui. Ouais. Et on avait même eu ça, pour aller très loin, on avait même eu Olaf Thon qui jouait même latéral et qui était meneur de jeu en étant
avec
défenseur latéral.
C'est
un truc très très bizarre. Mais il y a cette culture-là en Allemagne et qui dans les phases offensives du Real, Toni Kroos d'un seul coup devient le meneur de jeu, où qu'il soit sur le terrain. Il a besoin de cette liberté-là. Et forcément, en cas de contre-attaque ou de perte de balle, d'un seul coup, le Real est déstabilisé dans ces moments-là. C'est les rares périodes où...
C'est pas un joueur qui aime courir après le ballon, quoi.
Voilà. Parce que dans l'âme, on pourrait dire, dans la substance, il est meneur de jeu d'une certaine façon, malgré son poste.
La question, Annie, elle était inverse plutôt. C'était comment le Real peut faire mal à Manchester City.
Oui. Quels sont les
moi,
joueurs
j'ai vu un truc dingue au match aller. Le match retour, ça va pas Paris, parce qu'il va y avoir Walker normalement dans le couloir droit, mais le match aller, on avait quand même deux latéraux de City qui n'étaient pas des latéraux de métier, et Gvardiol, le but qu'il marque avec le contrôle complètement raté, qui fait que justement il y a une différence qui se crée. C'est peut-être ce que dit Carlo Ancelotti dans le son qu'on a entendu il y a 2 minutes, c'est-à-dire tout peut arriver, mais oui, parce que Manchester City, c'est aussi Guardiola qui façonne, donc il y a aussi des joueurs qui parfois sont pas forcément à l'endroit où ils sont le plus à l'aise, et ça peut peut-être créer quelques petites différences. Qui mieux que le Real pour exploiter les petites imperfections adverses aussi.
En tout cas, cette équipe des Citizens, elle est quand même sidérante parce que elle a pris les commandes de la Première Ligue au cours du week-end. Alors, grâce à sa victoire, mais aussi grâce aux défaites de ses adversaires que sont Arsenal et Liverpool. Ils ont en ligne de mire au cours du week-end une demi-finale contre Chelsea en FA Cup. Et donc, il y a cette demi-finale possible, européenne en vue. Et on se dit, l'année dernière, ils ont fait le triplé. On peut se dire, bon, c'est bon, on a tout gagné, on est rassasié. Eh bien non, pas du tout. En tout cas, c'est ce qu'assure Pep Guardiola.
Nous avons besoin de pression, de la ressentir, sinon on n'aurait pas envie de gagner. Si on pense au fait qu'on a déjà remporté la Ligue des Champions, on perd l'appétit dont on a besoin pour rivaliser avec des équipes comme le Real Madrid. Bien sûr, le fait d'avoir gagné l'an dernier fait qu'on se sent mieux cette saison. Mais il faut puiser la bonne énergie. Les supporters vont nous aider. Nous avons besoin de beaucoup de bruit, de leur présence pour bousculer l'adversaire. Je l'avais dit au match aller, on ne peut pas dominer pendant 90 minutes. Il faut parfois souffrir, ça peut mal tourner, mais je suis sûr que le public sera là, parce qu'il sait que nous répondrons présents. Je ne parle pas de gagner ou de perdre, mais d'être nous-mêmes. C'est comme pour les années précédentes, je sens qu'on est prêt à bien faire et à donner le maximum. Sinon, on ne pourra pas passer contre des équipes comme le Real Madrid.
Est-ce que les Citizens peuvent donner l'image aussi, Jean-Philippe, d'être trop sûr d'eux?
Non, je pense pas, parce qu'en fait, ils sont à un tel niveau de professionnalisme, de culture. Enfin, ça a mis du temps à s'installer, le guardiolisme.
Ça fait quoi, 8 ans qu'il est là
Depuis 2016, ça fera 8 ans cet été.
En fait, ça a mis plus de temps que prévu, sans doute. Le temps qu'il n'a pas eu quand il était au Bayern, par exemple, finalement. Et le Bayern est en train de le payer maintenant.
3 demi-finales avec le Bayern pour lui, consécutives.
Mais sauf qu'il a la promesse, c'était la victoire. À City, il a eu le temps et là...
Et les moyens, hein, parce que le temps
moyens,
est moyen.
Évidemment, hein, c'est pas...
Les moyens incommensurables.
C'est du football.
Le temps, c'est de l'argent.
C'est du football. Oui, oui, mais il a eu l'argent, le temps, enfin, il a eu beaucoup, beaucoup d'éléments. Et là, c'est installé, c'est un vrai très, très haut niveau de professionnalisme à tous les niveaux. Le moindre scout, c'est exactement tout ce qu'il doit faire. Enfin, il y a un reporting de folie pour le moindre joueur, le moindre entraînement. Enfin, c'est une machine de guerre, City. Hein. Il a monté un truc très très fort. Ça a sans doute été plus lent que prévu. Mais donc, le risque de la grosse tête, d'être sûr de soi, j'y crois pas. Non, ce qui peut se passer sur ce genre de match, c'est la baisse de régime physique, parce qu'effectivement, on est en fin de saison, que tous les matchs sont hyper tendus, hyper mobilisateurs, que c'est des équipes voilà, qui jouent tout. Voilà, et qu'il n'est pas question d'être éliminé en FA Cup non plus.
mais même ça a été anticipé par Guardiola et par ce club-là. On parle des effectifs aujourd'hui en Europe, c'est souvent des effectifs très très larges. Celui de Guardiola, il est assez resserré en fait. Il est sur un noyau de 17-18 joueurs maximum.
Oui, mais qui ont tous le même niveau.
Mais qui ont tous le même niveau.
Alors
donc,
que
il peut
d'autres,
les changer.
Ils en ont 11 et après,
exactement.
Ils en ont 5
et
ou 6.
Et c'est ce qui fait la force de City. C'est pour ça qu'il court encore après 3 trophées. Après, Bernardo Silva a quand même précisé, oui, on peut faire encore rééditer le triplé, mais on peut aussi tout perdre dans cette période de la saison. Donc, c'est, ça ne joue à pas grand-chose. Et je suis d'accord, moi, l'exigence à City, elle est, les joueurs le disent, elle est extrême. Elle est extrême.
Il ne leur laisse pas le temps de se reposer sur
non,
ses lauriers.
Et puis surtout, il a construit cette culture de la victoire, d'aller chercher des trophées, encore plus de trophées, d'avoir cette fin.
Voilà, le seul risque, c'est là, ils sont tous internationaux aussi. Hein, donc voilà, le seul risque, c'est l'accumulation et la baisse de régime. Et derrière, sur un bras de fer comme ça, entre deux clubs, des fois, ça, se joue à, ça va se jouer à rien.
Et puis là, quand tu regardes les concurrents, Chelsea en demi-finale de FA Cup, c'est costaud face au gros. Le Real Madrid en quart de finale avec des champions, il n'y a pas plus gros. Et puis en première ligue, c'est Arsenal et Liverpool, le Liverpool de Klopp. Donc c'est quand même des adversaires qui vous laissent peu de marge aussi, peu de marge à City.
Cependant, l'un de vous envisage-t-il la qualification du Real ce soir à City?
Bon, on serait fou de ne pas l'envisager quand même.
Non, c'est pas la plus probable, certainement. c'est pas la plus probable avec le
non,
match
mais
aller,
avec le Real, mais...
on n'est pas bookmaker comme nous dit Jude Bellingham, je suis d'accord, mais quand même.
Non, mais on ne peut pas ne pas y penser. C'est le Real Madrid, quand même.
En tout cas, voilà ce qui devrait être l'une des deux grosses affiches de la soirée. N'oubliez pas, nous serons en sortie et deux matchs. Mais allons vers l'autre affiche de cette soirée. Et Saka again. Curled it into the corner! An Arsenal unbelief! Goretzka à l'entrée de la surface, qui peut transmettre à Serge Gnabry, le jaillissement de Serge Gnabry à contre. Ça part d'une mauvaise relance. Oh, ça l'est encore dans la surface, pénalty! Quel rôle de Leroy Sané, 50 mètres, a transpercé cette équipe d'Arsenal. Harry Kane offre l'avantage aux Bavarois. Il a fait mine de frapper Gabriel Jesus, mais ce ballon allait en contre-sens pour l'égalisation. L'efficace international belge. Dans le stade de Munich ce soir, tout de rouge hein, comme les soirs de match, le Bayern espère donc prendre l'avantage après un nul au match aller. Le club bavarois qui finira la saison bien bien loin du Bayer Leverkusen, sacré au cours du week-end, champion d'Allemagne, champion de Bundesliga et qui a interrompu 11 titres successifs. Il n'y en aura pas de 12e successif pour ce Bayern de Thomas Tuchel. Mais il a très envie, ce club, de faire taire certaines critiques, de sauver aussi une partie de la saison. L'entraîneur veut y croire en l'expérience qu'a le club. Si Ligue des Champions à leur compte, et la dernière c'était en 2020. Écoutons-le, Thomas Tuchel.
Je pense que nous avons le léger avantage de l'expérience. Nous avons des joueurs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions et qui ont joué des matchs décisifs dans cette compétition. C'est aussi parfois un avantage d'être moins expérimenté pour être dans le rôle du chasseur. Donc cela peut aussi être une motivation pour les joueurs d'Arsenal d'être ceux qui parviendront à retourner en demi. Mais pour nous aussi, ce n'est pas habituel d'être en demi-finale. Nous sommes déterminés à tout donner. Personne ne nous donnera quoi que ce soit. C'est comme ça dans cette compétition. C'est super dur.
David Lortolari, Thomas Tuchel, donné partant en fin de saison. On se souvient qu'il a gagné quand même une Ligue des Champions d'une manière un peu rocambolesque hein, en 2021, après avoir quitté le Paris Saint-Germain quelques semaines avant. Il a donc lui aussi une énorme expérience en mettant l'expérience du Bayern, l'expérience de nombreux joueurs, l'expérience de l'entraîneur. Que diriez-vous du match de ce soir ?
Oui, une confiance relative vu d'Allemagne. J'ai écouté un peu les différents
relative.
Éditorialistes. Oui, relative parce que le Bayern est imprévisible et illisible cette saison. Il y a eu des
réussites chez lui face à Dortmund.
Oui, il y a eu des réussites fracassantes, des scores larges. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Et la semaine suivante, on se prend les pieds dans le tapis. Des défaites piteuses en coupe, en championnat. Une défaite contre le Werder Bremen qui est menacée de relégation, par exemple, pour n'en citer qu'un. Et puis surtout. On rentrera peut-être un peu dans les détails des joueurs, mais il y a une réduction drastique par le fait des blessures des joueurs de couloir. Et ça a quand même été, depuis l'époque, si on remonte même à Lizarazu, l'époque Ribéry-Robben, les joueurs de couloir ont été souvent des solutions au Bayern. Et là, ben, pas de Gnabry, pas de Kingsley Coman. Donc il y a cette petite inquiétude-là. J'ai un petit scoop à vous donner. Thomas Tuchel, à l'occasion du dernier entraînement secret, a aligné... Pour, dit-on, imagine-t-on, neutraliser Saka ce soir, a aligné à la fois Mazraoui, l'international marocain, dans le couloir et Rafael Guerreiro, l'international portugais. Ça voudrait dire que Thomas Müller serait sur le banc. Ça voudrait dire,
très
pour revenir à la question Annie...
cette approche...
oui, mais c'est ça, Ça vaut, pour revenir à la question Annie, ça voudrait dire que Thomas Tuchel, oui, essaye de jouer de son expérience, essaye de jouer de la capacité de mettre en échec l'adversaire aussi sur le plan tactique.
Et surtout, il sait que Thomas Müller, je ne sais pas exactement, maintenant il est à 35 ans.
700 matchs voilà. Avec le Bayern.
Ok, peut-être que pour rattraper Saka à la course, ça va peut-être un peu compliqué aussi.
Non, mais c'est ça.
Donc il y a de ça.
Il y a du réalisme
aussi.
Donc.
Non, mais c'est à l'image du Bayern d'ailleurs. C'est pas contre ce pauvre Thomas Müller qui est un immense joueur. Mais effectivement.
Et qui reste important sur certains matchs.
Il jouera un rôle
sûr,
de toute
avec
manière.
Une expérience colossale. Ouais, il est très décisif, il va aller marquer des
buts. Il a la hargne, hein, ouais, c'est un vrai leader.
Il va aller marquer des buts de raccro impossibles. Enfin bon, bref. Il est légitime, il n'y a pas de souci. De la même façon que Neuer est légitime ou que le roi Sané est légitime, voilà. Mais ils sont irréguliers cette saison, à l'image du club. Et ça, c'est la vraie faille du Bayern cette saison. Ouais. C'est pour ça qu'ils ne sont pas champions d'Allemagne. Hein. Alors, Leverkusen, ok, ils perdent aucun match. Et tout.
Moi, ça m'inquiète quand même si le Bayern, aussi grand soit-il, est dans sa culture de domination et d'imposer son jeu. Si son entraîneur commence à réfléchir comment bien défendre face à un attaquant adverse...
C'est ce qu'on a vu dans le dernier entraînement.
C'est pas le Bayern, quoi. Et je comprends qu'avec Tuchel, ça accroche pas. Et Tuchel, quand il commence à trop réfléchir, c'est là généralement où il déraille. Mais ce que tu me dis, ça me rend dingue, quoi. Parce que je m'attends à ce que le Bayern joue son jeu, impose son jeu.
Après, on a des joueurs offensifs. Des défenseurs de métier, mais c'est des joueurs quand même très offensifs. Donc, c'est relatif.
Tu verrais le Real Madrid jouer avec deux défenseurs latéraux sur le même côté pour bloquer l'attaquant adverse.
C'est plus Mourinho-esque
ni le Barça,
que Guardiolesque.
Ni City, ni...
C'est plus Mourinho que Guardiola. Ouais. Michael Ballack s'est exprimé cette semaine, Annie, très, très rapidement sur l'irrégularité. Et Ballack a dit, mais au Bayern, le plus important, c'est la hiérarchie dans le vestiaire. Il y a des joueurs... Schweinsteiger, Philipp Lahm était au-dessus, Thomas Müller était juste en dessous, puis après il y avait une hiérarchie. Et aujourd'hui, la hiérarchie, elle est un peu éclatée par des joueurs qui sont...
Sans doute à l'image des générations d'aujourd'hui.
Et Alphonso Davies, qui sera suspendu ce soir, est le symbole de ça, parce qu'il a demandé, il doit être à 13-14 millions par an, il a demandé plus, et c'est très très mal perçu, apparemment. Et Ballack insiste en disant, ça a fait un peu éclater l'ambiance cette saison. C'est peut-être voir les choses par le petit bout de la lorgnette, mais ça peut peut-être être aussi dans une équipe comme ça. L'équilibre du vestiaire peut peut-être être difficile à trouver.
On l'a dit pour certaines équipes, des joueurs qui veulent s'asseoir dans le bus à côté d'autres et tout ça.
Il y a de nouvelles générations
et on dit souvent, Jean-Philippe, que Didier Deschamps sait très bien travailler avec les nouvelles générations qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes comportements et attitudes. Ouais, compte aussi.
Là, en l'occurrence, je pense que au Bayern, c'est compliqué de comparer une sélection
sur les générations.
Dans les deux cas, tous les jeunes, ils sont extrêmement suivis, ils sont identifiés depuis très longtemps, y compris sur leur comportement, leur trait de caractère. Donc, je suis pas forcément là que ça pêcherait le plus au Bayern, mais il y a des... Par contre, l'intégration, oui, de certains est peut-être plus compliquée qu'à une certaine époque, tout simplement parce que le management a pas mal changé
et
l'entraîneur. Et donc, il n'y a plus tout à fait la même stabilité. Et typiquement, la gestion du cas Lewandowski l'an dernier, en le laissant partir, ça n'était pas super bien géré parce qu'il y avait la carte derrière de Kane. Qui est une super carte, c'est super bien. Sauf que Kane...
Oui, pendant un an, il n'y a pas eu Kane, justement. Voilà, il n'y a pas eu ni Kane, ni Lewandowski.
Et il est irréprochable, mais ça se trouve, il va encore faire une saison sans rien gagner.
Et les Gunners, me direz-vous? Alors, ils semblent un peu s'essouffler, malheureusement, comme la saison dernière aussi. Là, ils ont perdu au cours du week-end chez eux, et ils ont perdu surtout la tête du championnat. Mais ils ont de la ressource, et c'est ce que nous assure leur entraîneur, Mikel Arteta.
Réaliser une performance qui nous envoie en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on s'est préparé. On le mérite. Par tout ce qu'on a fait depuis le début de saison dernière, on a fait tellement de chemin. Mercredi, on a une chance de concrétiser tout ça. Ce serait génial. Si on se qualifie, on sera heureux comme jamais. On aura accompli quelque chose que le club n'a plus fait depuis 15 ou 17 ans. C'est vraiment le moment.
Alors évidemment que côté motivation, on imagine qu'elle est au maximum, mais est-ce que motivation et état physique peuvent aller toujours ensemble? Pas forcément, Bruno.
Bah là, c'est difficile pour Arsenal parce qu'ils sont un peu au bord du précipice. Là.
Ils sont dans le creux de la vague, en tout cas.
Bah, je ne veux pas dire que la saison pourrait s'arrêter ce soir, mais pas loin. Parce que
ça fait un peu journée de la marmotte, hein. C'est pas l'éternel recommencement quand même. Hein.
Là, on dit toujours en Angleterre, à propos de l'Arsenal, same old story. Toujours la même histoire. Mm. Et c'est un
mais
peu
on
ça
avait,
qui arrive.
Au cours du week-end, avant le week-end, qu'est-ce qu'on disait sur Bayer Leverkusen, Never Leverkusen,
ah oui,
c'est
ah
ça
Leverkusen. Oui, mais là, avec 15 points d'avance, c'est pas la même configuration.
Il y a un moment où ça change.
Il y a un moment où ça change. Moi, je pense qu'ils sont pas totalement écartés de la course au titre. Je pense qu'il peut y avoir encore d'autres surprises, d'autres obstacles dans la saison des trois.
Il reste encore 5 ou 6 journées. Hein.
Il reste 6 matchs, et parce qu'ils sont en décalage. Eux, il leur reste 6 matchs, les trois concurrents. Après, pour la Ligue des Champions, c'est une autre compétition. Moi, je le répète, c'est pas la même approche. Je pense qu'ils ont largement les armes pour aller chercher un résultat à Munich parce qu'ils sont capables de, et il avait montré à City, il avait montré à Liverpool, de jouer beaucoup plus défensif, déjà être beaucoup plus bas, recroquevillé et de piquer en contre. Et c'est aussi quelque chose qui peut leur convenir parce qu'en Première Ligue cette saison, ils se retrouvent souvent avec la possession du ballon. Et c'est dur d'assumer toujours la possession, de toujours trouver des idées pour marquer, de créer des décalages. C'est beaucoup plus usant que de défendre en bloc. Et je pense que là, l'approche du match peut leur convenir face à un Bayern qui doit attaquer. Encore une fois, je pense que le Bayern, chez lui, est obligé d'attaquer. Surtout à match nul du match aller, il doit faire aussi la décision. Donc ça peut convenir à Arsenal.
Bukayo Saka face à... Alors, on va voir quel duo il nous trouve Thomas Tuchel. Mais en tout cas, il y a Harry Kane quand même en face aussi.
Oui, exactement. On a entendu parler d'un Ødegaard un peu boitillant, un peu incertain. Enfin, incertain, il sera là, mais peut-être pas à son meilleur. La presse allemande a focalisé sur le milieu de terrain d'Arsenal. Et au match aller, le but de l'égalisation, le dernier but marqué dans le match pour Arsenal, c'était quand même un but où on a retrouvé... Alors, c'était une phase, c'était une séquence dans le match, mais on a retrouvé le délice que peut nous apporter Arsenal qu'on connaît déjà depuis Wenger, c'est-à-dire un jeu léché. C'est quelque chose qui peut surprendre le Bayern, qui encaisse quand même pas mal de buts cette saison. C'est pas une défense catastrophique, mais il a beaucoup changé, Thomas Tuchel. Ce soir, ça devrait être les deux auxquels il fait confiance dernièrement, c'est-à-dire Dyer, qui connaît l'Angleterre, avec De Ligt. Mais on fait très attention au milieu de terrain adverse, ça j'ai noté.
Jean-Philippe, pour terminer, c'est aussi un grand moment pour Thomas Tuchel quand même.
Bah, oui, forcément. Forcément, mais là...
il est sur le départ, très critiqué, pas très bien dans son vestiaire, et en même temps, ils sont aux portes d'une demi-finale.
En fait, il y a quand même une grosse pression pour le Bayern là, à domicile, parce que alors, individuellement, pour tous les joueurs, quand tu n'es pas champion au Bayern, c'est
donc,
un échec.
Ça, c'est déjà un fait.
Voilà, et pour Tuchel aussi, parce que quand même, de ne pas être conservé au Bayern, c'est quand même un peu humiliant. Enfin, c'est quand même c'est dur à admettre.
Ouais, et puis en
admettre.
Plus, ils l'ont dit longtemps avant.
S'il se fait éliminer à domicile... La semaine où il perd le championnat,
ça fait lourd.
Si on l'a vu venir.
Il y a beaucoup de symboles.
Ça va peu, et depuis 2000, Annie...
Il aura mieux qu'il aille en Angleterre, plus il aura plus de mal.
Ce qui serait en plus gênant dans son tableau à Tuchel, c'est que depuis 2000, j'ai tous les matchs contre Arsenal, le Bayern a systématiquement passé. Alors, il y a eu des trucs bizarres. Hein. Ils ont été gagnés 3-1 à l'Emirates, ils ont perdu 2-0 chez eux, mais ils se qualifient au but à l'extérieur. Il va se passer des choses. Jetez un œil sur ce match.
Ah oui, non, mais ça, ce soir, il faudra 4 yeux au lieu de 2 pour voir 2 écrans. Et nous en parlerons aussi dans l'émission deuxième partie. Restons en Allemagne juste un instant parce que l'Allemagne a pris une avance en tout cas sur d'autres nations. Elle aussi a déjà un club en demi-finale et c'est un certain Dortmund.
Jetzt schöner Pass, Sabitzer bringt den Ball. Möglichkeit, Sabitzer! Sabitzer 14 Meter! Sabitzer 14 Meter Tor! 74. Minute! Dortmund wieder im Halbfinale! Marcel Sabitzer, 2 Vorlagen, 1 Treffer!
Le mur jaune hein, a pu s'époumoner hier soir et notre confrère allemand a presque autant perdu sa voix que,
oui,
que,
c'est un que confrère
Cédric
de la radio
Oliveira
locale.
Hier sur l'antenne. En tout cas, il y a un club français, donc c'est le PSG en demi-finale, et puis il y a un club allemand, et c'est le Borussia Dortmund. C'est peut-être pas celui qu'on aurait mis immédiatement en demi-finale. Les deux sont issus, rappelons-le, hein, du même groupe, mais ils ont surpris ces joueurs de Dortmund David, où oui. On les a vus aussi s'améliorer au fil du temps, même si en championnat ça se voit moins.
Oui, mais ce qui était surprenant, c'est que c'est une équipe friable qui a perdu des points, qui est de fait aujourd'hui la cinquième équipe en Allemagne, c'est-à-dire que Stuttgart est meilleur, Leipzig est meilleur, le Bayern est meilleur, malgré la défaite contre Dortmund récemment, mais le Bayern a de l'avance, et puis évidemment Leverkusen est meilleur. Donc c'est la cinquième équipe du pays actuellement. Et
puis ils se sont fait peur hier soir, hein, parce que par deux fois ils ont été rattrapés.
C'est là où c'est surprenant, c'est que il y a un moment donné du match en seconde période où le chrono a déjà bien couru, ils ont deux buts à marquer pour se qualifier. Et là, on se dit, face à l'Atlético Madrid, qui a quand même cette capacité, alors c'est un cliché maintenant,
oui,
mais cette capacité à serrer, à fermer, et là, Sabitzer fait le centre, Füllkrug qui n'a pas marqué depuis 9 matchs, met la tête exactement où il faut pour donner l'espoir au stade. Il y a une incandescence, et puis le dernier but, il y a des joueurs qui ont fait mieux que ce qu'ils ont montré récemment. Sabitzer, je le citais, Füllkrug qui s'est réveillé. Et puis Madsen, le jeune Madsen qui l'a recrue, la réussite de cette saison qui vient des Pays-Bas. La réussite de cette saison à Dortmund, ça a bien fonctionné. Ils sont bien contents de retrouver ce stade-là. Depuis 2013, ce n'était pas arrivé. Mm-hmm. Bon souvenir, puisqu'ils
Une
étaient
finale
en finale.
Une finale face au Bayern, exactement. On reviendra sur les affiches des demi-finales demain dans Radio Foot, parce que là, quand même, allez, place à Paris.
Attention, la frappe de Vitinha! La frappe de Vitinha! Et le deuxième but parisien! Il était tout seul, le milieu de terrain portugais!
C'est une très très grande performance.
C'est parti pour Kylian Mbappé, c'est dedans!
Ça se souligne ce soir, le PSG a fait un pas en avant, parce que là ce soir, c'est marqué d'une pierre blanche.
Oui, d'un côté beaucoup de sérénité, et de l'autre une équipe beaucoup trop nerveuse pour continuer sa route en Ligue des Champions.
La frappe d'Hakimi et le quatrième but parisien! Le quatrième but parisien!
Ça a marqué d'une pierre blanche.
Adios, adios, adios Barça! Adios Barça!
Ils sont un peu taquins, hein, les supporters parisiens. Ils n'étaient que 3000 hier au stade Montjuïc. Mais ils leur ont donc chanté « Adios Barça » après avoir peut-être trop pleuré à cause des Blaugrana de par le passé. Maintenant, ils peuvent rêver plus grand, comme ils écrivent sur leur stade. Les Parisiens s'autorisaient à rêver car les voilà donc en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça n'était pas arrivé depuis 2021. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même eu la sensation qu'on avait là un match, comme on dit, référence ou en tout cas un peu d'anthologie pour l'histoire du club. On a vaincu des fantômes de la fameuse remontada. On en est donc à la remontée. Et Jean-Philippe Bouchard, avec 3 buts de plus quand même que le Barça sur sa pelouse. Est-ce que pour vous, parce que la semaine dernière, après quand même un match aller un peu décevant, on se disait mais quel est le 11 de départ, quel est le style de jeu, est-ce qu'on a plus de réponses?
Là, on a l'impression que Luis Enrique a juste mis les joueurs à leur poste. Leur poste de prédiction. Là
il n'a pas fait
bons.
Du Guardiola, parce que Guardiola, il fait un peu ça de temps en temps aussi.
Il a fait dans la simplicité et je dirais que chacun a fait son job, voilà, dans son registre et à sa
poste. Pour toi, Luis Enrique n'a eu aucune influence sur ce qui s'est passé hier?
Si, mais bien sûr, si.
Ah, si.
Il a joué. Alors, il a eu une influence au niveau de l'approche mentale. Qui a été excellente,
énorme.
Parce qu'il a à aucun moment,
mais
dès la fin du match aller, il a dit « j'y crois,
mais
on va se qualifier là-bas ».
Apparemment, selon ce que disaient certains joueurs, c'était même dès la mi-temps où ils avaient déjà encaissé un ou deux buts du Barça au match aller, qu'il leur a dit « vous y arriverez ».
Donc là-dessus, avec sa connaissance aussi du Barça, du club, de tous les à côté, ça compte énormément en Ligue des Champions, il a extrêmement joué, bien joué, et pour insister sur la confiance, il a pas essayé de composer, de faire des coups. Voilà, il a mis les meilleurs à leur poste. Voilà, simple. Après, et la partition s'est bien déroulée. Après, il y a le Barça. C'est quand même
C'est s'aborder.
C'est s'aborder. Mmh. Et je ne sais pas si vous avez vu ce petit, ce petit détail qui est sorti dans l'après-midi. Il y a eu un caillassage du but du bus du Barça avant le match à Barcelone par les supporters du Barça. Ils ont caillassé leur propre bus en se trompant. Et c'est assez symbolique de ce qui s'est passé.
Ils étaient un peu perdus.
Voilà, parce qu'ils étaient dans une configuration idéale. Mmh. Voilà, ils avaient cueilli le PSG qui était bien en place, mais qui n'était pas hyper dangereux. Ils l'avaient cueilli à froid. Et bon, bah, il se prend à Reus pour ce carton rouge et ça change tout. Quoi.
Oui, d'ailleurs, la colère de Xavi, hein, qu'on a vu un peu sur toutes les chaînes là, et sur tous les réseaux, était tous très bizarre.
Tous.
Oui, tous. À partir de l'exclusion. Et c'est quand même à la 29e minute. Donc après, il faut tenir une heure.
Ils ont caillassé leur propre bus. Voilà.
Bon, c'est de la faute des supporters, alors. On a eu l'impression quand même de trouver un collectif, peut-être, David Lortolari, pour une fois. C'est-à-dire, on dit toujours, oui, mais il y a les grandes individualités à Paris et tout ce qu'on sait et tout. Mais, et les autres années, on avait des vraies stars de renom. Et, oui. Et là, on a eu peut-être la sensation qu'il y avait quand même plus un jeu, une union collective.
Oui, quand on décrète par un slogan, par une campagne publicitaire, par je ne sais quoi, qu'on est une équipe, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. En revanche, quand vous avez des joueurs qui sont dévoués, alors Marquinhos, c'est peut-être le plus ancien d'entre eux et il n'y a peut-être pas plus dévoué, mais d'autres aussi qui sont arrivés, d'autres qui apportent un Vitinha. J'ai regardé un peu les échos au Portugal depuis le match. Est considéré comme bluffant, donc c'est aussi des bonnes surprises, peut-être, enfin surprises relatives, mais il fait un match intéressant, il marque un but, si je me trompe pas.
À l'aller et au retour.
À l'aller et au retour, et factuellement, ce que dit Jean-Philippe, on peut pas le contrarier, parce que si le défenseur... si le défenseur laisse échapper le Parisien vers le but... Alors, il y a une chance de but énorme, évidemment, mais il reste quand même encore un avantage pour Barcelone. Mais il reste encore un avantage pour Barcelone. Donc, ça, c'est quand même bien goupillé. Et derrière, c'est plus facile à Nice. Alors, bien sûr, chacun peut vouloir jouer sa partition quand les choses vont mal. Quand les choses vont bien, on le voit souvent quand même dans les sports collectifs, dans le football en particulier. Quand les choses vont bien, c'est plus harmonieux. Et là, c'est ce qui s'est passé avec le scénario du match.
Plus harmonieux, donc Luis Enrique ne s'est pas trompé sur sa compo, qu'on avait beaucoup critiqué au match aller. Et il a réussi à convaincre ses hommes qu'ils en étaient capables. Écoutons-le, Luis Enrique, un homme plus que satisfait.
Je me sens vraiment très heureux, je suis content. Je pense que mon équipe a mérité cette victoire. Elle a fait son match. Nous avons commencé de manière spectaculaire. Les 12 premières minutes ont été merveilleuses. La première action du Barça dans notre surface, sur de beaux gestes de Lamine Yamal, s'est soldée par un but. À partir de là, l'équipe a continué à jouer. Nous avons été, je pense, excellents dans notre pressing, ce qui nous a permis d'avoir un homme de plus dans les lignes adverses. Les attaquants ont fait un travail exceptionnel, Mbappé, Barcola, Dembélé. Les milieux de terrain ont fait de même, les défenseurs aussi. Je pense que nous avons pu jouer le match là où nous voulions. L'expulsion de l'un de leurs joueurs a certes été déterminante, bien sûr, mais qui joue contre une équipe qui, pendant une grande partie du match, a un homme de moins, doit savoir comment jouer ce type de rencontre pour ne pas commettre d'erreur. Je pense donc que le résultat est vraiment juste.
Durante mucha parte del partido, como hombre menos, tienes que saber jugar ese tipo de partidos para no cometer errores. Y creo que el resultado es justo.
Justo, et en sortie de match, eh bien, son président, Nasser El Khelaifi, lui a tressé des lauriers, hein, son entraîneur, parce qu'il s'est dit satisfait d'avoir le meilleur entraîneur du monde, bien sûr. Hein, expression, on ne peut plus galvauder. Je vous vois faire des froncer les sourcils, Bruno Constant. Mais en tout cas, c'est vrai qu'hier soir, on avait l'impression qu'on avait un entraîneur et une équipe.
Ben ouais, et c'est le principal changement au PSG. Ouais. Mes confrères anglais en sourient même, ils s'en moquent un petit peu. Ça y est, le PSG est en train de devenir intéressant parce que c'est plus une galaxie de stars, mais c'est une vraie équipe. Donc ça devient un
projet
intéressant.
C'est ce qu'ils prétendaient depuis l'intersaison, en disant on n'a plus des stars, on a recruté des jeunes en devenir.
C'était le discours qui a essayé de justifier
le marketing, un peu,
le recrutement. De communication. Enfin, en même temps, ils ont recruté pour 400 millions d'euros. Mm-hmm. Donc moi, je veux bien le côté, on met d'abord l'équipe. Mais par contre, ils ont fait venir un entraîneur qui fait passer le collectif avant tout. Et quand on débattait du traitement d'Mbappé, qui était sorti en cours de match quand il n'était pas bon, etc., etc., on a juste découvert un entraîneur qui fait passer son équipe avant tout. Et c'est pour ça qu'elle est restée calme, qu'elle n'a jamais paniqué, ce qui était quand même une mauvaise habitude au PSG. Hein. Dès que les choses tournaient mal,
ça partait un petit peu en vrille. C'était la fragilité mentale, bien sûr.
Après, il faut faire attention Quand vous parliez de la première question initiale, c'était d'un match référence. Moi, pour moi, il ne peut pas y avoir un match référence quand l'adversaire est dû à 10. C'est beaucoup plus facile de jouer 11 contre 10. Et c'était beaucoup plus facile pour le PSG de battre ce Barça-là. Maintenant, il faut prendre ce qu'il y a à prendre en Coupe d'Europe. Il n'y a pas de leçon à prendre. Il faut juste passer le tour. Et puis le prochain, c'est Dortmund. Et la voie réelle jusqu'à la finale pour le PSG.
Et on verra. En tout cas, l'homme du match, c'était Ousmane Dembélé, qui a encore marqué un but. On a vu aussi briller Bradley Barcola et Vitinha, comme vous l'avez dit. Mais bien sûr, il était là aussi et il a inscrit un doublé. C'est Kylian Mbappé. Alors certes, il n'a pas été le meilleur sur le terrain, même s'il est plutôt bien noté. Mais écoutons-le, parce qu'en zone mixte, auprès des journalistes, après avoir quand même essuyé des sifflets, aussi reçu quelques bouteilles vides de la part des les fameux supporters Blaugrana, eh bien, ils s'en prenaient quand même à un futur merengue et ça l'a amusé Kylian Mbappé.
Tengo el sueño de ganar la Champions con París, seguro. Es un paso más ahora contra un gran equipo. Mucha suerte a ellos, pero ahora está para nosotros y vamos a intentar a ir a Wembley.
Alors, pour tous ceux qui ne parlent pas espagnol, évidemment, on n'est jamais aussi bien traduit que par soi-même.
Je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté, elle est encore plus grande. On est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. C'est ce qu'on a fait. Mais vraiment, félicitations au groupe. Comme j'ai dit, voilà, dans une autre langue, on a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner, on allait venir se qualifier. Donc, on est très content.
Alors, Kylian Mbappé, il paradait un peu, hein, et a raison quand même, ce pénalty essentiel hein, pour garder l'équipe qualifiée. La presse catalane aujourd'hui, alors elle, du côté de Barcelone, on se cantonne à contester l'exclusion de Ronald Araujo et de son carton rouge. Par contre, du côté de Madrid, eh bien, on a dit Mbappé a tué le Barça, ça c'est As. Et puis Mbappé dévore le Barça, ça c'est pour Marca. On l'attend déjà. il vole la vedette alors qu'il n'a pas été le meilleur, Jean-Philippe.
Bah, il a fait oublier le fait qu'il a fait patienter le Real un an.
Beaucoup plus.
Ça s'est oublié, voilà, les supporters qui ils ont, c'est plus dans leur tête. Non, mais pour lui c'est la soirée parfaite, pour le PSG aussi. Mais évidemment, il marque 2 buts, c'est super. Mais encore une fois, je suis d'accord avec Bruno, on peut pas juger de la performance de. Enfin, tout est bien en place, soirée parfaite, très bien. Mais on peut pas se dire que c'est le tout va bien maintenant au PSG. Voilà, sur ce match-là, l'exclusion
d'un adversaire
a trop d'impact en fait sur le début du match.
Et moi, j'irai un plus loin. Moi, je trouve que le match Mbappé, je trouve pas qu'il me rassure. Je trouve que ça m'inquiète d'autant plus parce que dans un match qui était capital où il était attendu au tournant, alors oui, il a marqué 2 buts. Tous ceux qui ne voient le foot que par les stats, nous ressortirons les 2 buts. Mais dans le match qui était important où il fallait renverser la vapeur, c'est Dembélé. C'est Barcola, c'est Vitinha qui ont porté le PSG.
Et Zaïre Emery, il ne faut pas oublier Zaïre Emery qui a été...
Oui, peut-être que lui aussi.
Mais il ne faut pas oublier qu'il maintient un niveau de performance quand même sur des gros matchs, alors qu'il est très jeune. Quoi.
Ouais. David Lortolari, votre regard sur ce cher Kylian Mbappé?
Non, mais c'est exactement...
Il n'ira pas jouer au Bayern, apparemment.
C'est exactement ce qu'on disait. Après, rien n'empêche à une individualité de sublimer un collectif. Zaïre Emery, on s'inquiétait parce qu'il baissait de régime et on se disait c'est lui qui porte le PSG cette saison. Finalement, on a comblé les insuffisances et hier, il n'a pas été ridicule du tout. Kylian Mbappé, ça peut être le plus.
Il a même été titulaire, hein, c'était quand même...
Mbappé restera dans le match à Dortmund qui arrive fin avril, début mai. Ça va rester le facteur qui peut faire basculer la confrontation parce qu'en face, pour le coup, il y aura un collectif aussi.
Oui, et puis son deuxième but quand même raconte beaucoup aussi de Mbappé. Il est à l'origine, il est à la conclusion, même si c'est un but ou un peu billard là, dans la surface. Mais en tout cas...
Cette aisance qu'il a, on ne va pas lui enlever. C'est ce que je dis, c'est des types d'une
catégorie
de joueurs
un peu spécial. Parce que c'est un des plus expérimentés maintenant au Paris Saint-Germain, mine de rien. Avec Marquinhos, sans doute. C'est la fin de ce Radio Foot International. N'oubliez pas, nous avons rendez-vous tout à l'heure à 23h10 en temps universel et nous prendrons le temps d'évoquer aussi sans doute le sujet de Naby Keïta, sévèrement sanctionné par son club du Werder Bremen. Merci beaucoup messieurs.
Merci,
et bon match.
Plaisir.
Bon match à tous et à tout à l'heure.